Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bonjour également à Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on va évidemment parler avec vous des événements en Catalogne qui suscitent l'inquiétude et l'embarras des Européens. Avec cette interrogation, Eve, l'Espagne est-elle aujourd'hui au bord de l'implosion? Au lendemain de la manifestation monstre des Catalans, 700 000 personnes dans les rues pour protester contre les violences policières de dimanche. Et l'allocution hier soir du roi d'Espagne n'a rien arrangé. Discours très dur de Felipe VI condamnant fermement le scrutin, le gouvernement catalan et la conduite irresponsable de son président, Carl Puigdemont. Ce dernier répliquant qu'il s'apprêtait à déclarer l'indépendance de la région avant la fin de la semaine. Alors Eve, tout au long de ce processus qui a mené jusqu'au référendum, la jeunesse catalane s'est énormément mobilisée.
Oui, plusieurs lycées et surtout plusieurs universités se sont vidées de leurs étudiants, partis manifester donc pacifiquement dans les rues de Barcelone depuis dimanche. On peut dire que les jeunes sont en première ligne de cette mobilisation, de cette révolution des sourires que souhaitent inscrire dans l'histoire les indépendantistes. En réalité, cela fait déjà une petite semaine qu'une partie d'entre eux font campagne, surtout donc pour la tenue de ce référendum, que les trois quarts appelaient de leurs vœux, à coups d'hymnes catalans et à cris de slogans « Independencia, votarem, votarem ». L'université de Barcelone s'est d'ailleurs transformée en bastion des pro-indépendance. On écoute Nuria, elle a 22 ans, elle est étudiante à Barcelone. Elle était au micro de nos confrères de France 24.
Toute la jeunesse sera mobilisée dans les prochains jours pour défendre la démocratie et le référendum, toujours de manière pacifique et festive. Ce qu'on veut faire, c'est lancer un appel à la jeunesse pour qu'elle n'ait pas peur et qu'elle comprenne qu'on est l'avenir de ce pays.
Depuis la réaction musclée de Madrid dimanche et la condamnation du vote par le roi d'Espagne hier soir, la mobilisation n'a fait que se renforcer, Eve.
Oui, les jeunes dénoncent entre autres un déni de démocratie, une répression policière violente, incompréhensible. Ils ont défilé hier donc dans les rues de la capitale catalane, mais aussi dans d'autres villes de la région. Des cortèges qui contenaient des centaines de milliers de participants, pas forcément tous indépendantistes d'ailleurs, mais tous choqués des images diffusées ce week-end à la télé où l'on voyait des personnes brutalisées par les policiers espagnol envoyé par Madrid.
Alors l'Europe, dans tout cela, comment ont réagi les voisins européens de l'Espagne?
Plutôt timidement, il leur a fallu attendre la fin de matinée lundi pour entendre la Commission européenne appeler le gouvernement de Mariano Rajoy et les indépendantistes catalans à passer rapidement de la confrontation au dialogue, tout en dénonçant à demi-mot l'usage de la violence par la police. La plupart des dirigeants européens, eux, n'ont pas osé s'exprimer publiquement sur la situation. Sur les réseaux sociaux lundi, on pouvait d'ailleurs lire le mot-clé « Shame on you » en anglais, « Vergüenza » en espagnol, « Honte à vous » en français. Lancé par les Catalans déçus, justement, du peu de réaction.
Au-delà du mouvement indépendantiste, Eve, les jeunes Catalans sont fatigués de la politique du gouvernement madrilène et ils aspirent à du changement.
Oui, une idée qui est d'ailleurs très bien résumée par Bernat, toujours interrogé par nos confrères de France 24.
Ce qu'on demande, ce n'est pas seulement un changement de drapeau. Ce qu'on demande, c'est un changement social, un changement organisationnel. Une société dans laquelle on voterait de nouvelles lois sur le logement, l'éducation ou la santé.
Et cela fait un petit bout de temps déjà que la jeunesse espagnole le réclame, ce changement. Souvenez-vous, c'était il y a 6 ans déjà. Elle se réunissait sur les grandes places de Madrid et de Barcelone à l'appel d'une autre politique qui lui donne enfin sa place dans la société espagnole. C'était le mouvement du 15e, celui des indignés qui allait favoriser l'émergence d'un nouveau parti, Podemos.
Et oui, on est en 2017 et rien n'a vraiment changé pour cette jeunesse.
Non, du coup, elle se désespère. 34% de chômage encore chez les moins de 25 ans, 80% des moins de 30 ans qui vivent encore chez leurs parents. Une émancipation impossible, aucune vraie perspective d'amélioration. 50% des contrats de travail sont temporaires, 30% à temps partiel. Pire, la plupart des jeunes Espagnols qui arrivent à s'insérer sur le marché du travail le font en acceptant des emplois sous-qualifiés. Dans ce pays de propriétaires immobiliers également, il a été calculé que les jeunes Espagnols devraient consacrer jusqu'à 72% de leurs revenus pour pouvoir se loger et s'acheter un toit. Alors forcément, ils ont l'impression de stagner.
Alors la situation en Catalogne, on en reparle vendredi dans Accent et dans les jours qui viennent, évidemment. Et vous, Eve, on vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Hate and anger make me feel fulfilled. You know, like this is what I need to do.
Behöver vi vara
Ils sont souvent jeunes également, ils prônent la haine des juifs et des élites, ils veulent prendre le pouvoir par la violence. Les néo-nazis multiplient les sorties publiques en Suède. Samedi, le mouvement de la résistance nordique, le NMR, n'a réussi à rassembler que 600 sympathisants contre un millier attendu pour défiler bruyamment dans les rues de Göteborg. Et ils n'ont jamais atteint leur objectif, le Salon du Livre, premier festival littéraire de Scandinavie. La police venue en force et des milliers de contre-manifestants ont pu les bloquer cette fois. Mais les néo-nazis ont réussi à monopoliser le débat et c'est le reportage d'Anne-Françoise Hiver.
L'ambiance est tendue aujourd'hui à Göteborg, deuxième ville de Suède. On y entend des slogans anti-nazis scandés par des militants antifascistes, des citoyens ordinaires qui sont venus défier les néo-nazis du Nordiska Motståndsrörelsen, le mouvement de la résistance nordique. Entre eux et les hommes en noir, un millier de policiers, la plus grosse mobilisation des forces de l'ordre depuis le sommet européen de 2001 qui avait laissé la ville à feu et à sang. Cette fois, il n'y aura pas d'affrontement. Les néo-nazis sont acculés dans une ruelle privée de leur chef, interpellé plus tôt avec une vingtaine de militants. C'est le porte-parole du mouvement Per Berg qui prend le micro à l'arrière d'un camion. Crâne rasé, tout en noir, sur sa veste, la rune de Thur, flèche qui monte vers le haut, symbole de l'Allemagne nazie.
Le temps de la révolution est venu, mes amis. Nous sommes les héritiers des Vikings. Nous sommes les héritiers des soldats du royaume de Suède. Nous avons dû défendre notre liberté. Elle est de nouveau menacée. Elle est vraiment menacée. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ils essaient de nous censurer, ils essaient de nous interdire, de nous emprisonner. C'est maintenant que nous devons sauver notre peuple. Maintenant, est-ce que je peux compter sur vous ?
L'idéologue de NMR et rédacteur en chef du site Nordfront, Fredrik Weideland, lui succède. Le discours est violemment antisémite, haine des juifs, des élites. Le barbu promet une révolution nordique et une justice sans pitié. Son rêve, dit-il, la lapidation collective de tous ceux qui ont vendu le royaume de Suède. Il encourage ses militants à les conspuer. Traître, hurlent les nazis qui ne sont que quelques centaines, loin du millier de sympathisants qu'ils espéraient rassembler, à l'image de leur organisation ultra-minoritaire, mais qui réussit là où d'autres ont échoué, à fédérer une mouvance jusque-là fragmentée. Jonathan Lehmann, qui enquête pour la fondation antiraciste Expo, précise.
NMR est un groupe qui existe depuis 1997. C'est une formation nazie qui est connue depuis longtemps comme étant la plus radicale. Mais depuis quelques années, elle est aussi devenue la formation dominante. Nous nous retrouvons ainsi avec une situation un peu spéciale en Suède, car la mouvance nazie a toujours compté plusieurs groupuscules. Mais après que le parti des Suédois se soit dissous en 2015, suite à leur échec électoral de 2014, aucun groupe ne les a remplacés. Ils ont poursuivi leur activité en faisant du lobbying, en organisant des séminaires, en enregistrant des livres audio. Et petit à petit, depuis 2015, le NMR a réussi à regrouper la mouvance néo-nazie.
Trois de ces militants viennent d'être condamnés pour avoir fait exploser deux bombes et tenté d'en déclencher une troisième devant deux centres de réfugiés et un local syndical à l'automne 2016. On est encore loin de 1999, année sanglante où les néo-nazis suédois avaient assassiné un syndicaliste et deux policiers. Mais Jonathan Lehmann s'inquiète de leur succès grandissant.
Le mouvement est fort en ce moment. Les néo-nazis rassemblent plus de gens dans leurs manifestations qu'ils ne l'ont jamais fait depuis des années. Et le fait que le NMR mène la danse, que ce soit eux qui organisent les manifestations, qui exercent le leadership sur la mouvance néo-nazie, c'est clairement une radicalisation avec ce que cela implique, un penchant pour la violence et un militantisme accru.
Cet été, le NMR s'est invité à la semaine politique d'Almedalen sur l'île de Gotland où se rassemblent chaque année les partis politiques suédois. À Göteborg, ils manifestaient en marge du Salon du Livre où pour la deuxième année consécutive, le magazine d'extrême droite, Nya Tider avait obtenu un stand. En réaction, plusieurs centaines d'intellectuels ont décidé de boycotter l'événement et d'organiser un festival alternatif au Musée des Cultures du Monde en face du centre des expositions. L'écrivaine Elisabeth Hjort explique.
Ce boycott est un mouvement d'auteurs qui demande aux organisateurs du Salon du Livre de prendre position en faveur du débat démocratique, avec sa limite, celle de proscrire le fascisme.
Alors que faire ? Interdire le mouvement, comme le suggère le patron de l'extrême droite suédoise, Jimmy Åkesson, bête noire du NMR qui essaie de recruter parmi ses sympathisants. Le journaliste Oisin Cantwell met en garde.
En Suède, on ne peut pas interdire une organisation. Ce n'est pas possible juridiquement. Et puis concrètement, si on criminalise les néo-nazis, ils vont disparaître des radars et ce sera beaucoup plus difficile pour la police de les surveiller. Ils pourraient devenir un mouvement terroriste. Ce que nous devrions faire, par exemple, c'est de dénoncer devant les tribunaux le symbole nazi brandi lors des manifestations comme acte d'incitation à la haine raciale. Voyons d'abord jusqu'où on peut aller avec notre législation.
Samedi, les néo-nazis ont finalement dû se replier sans jamais avoir atteint le salon du livre. Bilan, 2 blessés, 20 de personnes placées en garde à vue et une note très salée pour le contribuable.
C'est la cacophonie en ce moment dans le gouvernement britannique de Theresa May. Négociations aussi au point mort avec l'Union européenne. Le Brexit n'avance pas. C'est notamment le constat du négociateur en chef Michel Barnier devant les eurodéputés mardi. Il n'est donc pas question pour les Européens d'entamer la seconde phase de pourparlers avec le Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, un certain nombre de Britanniques n'ont pas attendu la conclusion de ces négociations et ils ont d'ores et déjà fait leur valise. Selon l'Office national de statistiques, plus de 100 000 ont quitté le pays entre mars 2016 et avril dernier. Un chiffre record depuis 2012 et l'exode n'est pas terminé. Reportage Marie Billon.
Peter Sellar est pressé de goûter au verre de l'amitié. D'ici quelques mois, cet Écossais vivant à Édimbourg deviendra officiellement français. La cérémonie et le verre de vin pris au consulat à Londres sera son intronisation officielle. Marié à une Française et passant chaque année une partie de ses vacances dans l'Hexagone, il est content de pouvoir acquérir cette nationalité, mais il n'en aurait pas ressenti le besoin si le Brexit n'avait pas eu lieu.
Mais à cause du Brexit, ça a mis en danger un peu le statut que j'ai eu depuis toujours, ça veut dire que je suis européen. Et pour garder ce statut, c'est important pour moi que je reste toujours européen. Et ma vie est partagée entre la France et l'Écosse. À cause du Brexit, cette vie aurait été mise en danger. Il y a un risque que j'aurais eu des problèmes d'aller même voir la belle famille qui est en Normandie, à Paris et en Dordogne. Ça aurait été peut-être plus difficile. Là, d'ici 6 mois, j'aurai le droit de garder tout ça, ce qui est pour moi le plus important dans ma vie, en fait, hein, c'est la famille.
Élodie, l'épouse de Peter, n'avait pas pensé à retourner vivre en France, mais le vote de juin 2016 a tout changé.
Ça me fait poser la question. Jusqu'à présent, je ne me l'étais pas posée. C'est quelque chose qui n'est plus exclu. Il faut voir comment ça va se développer, mais on a la chance d'avoir la porte ouverte en France. Donc oui, c'est une possibilité, le retour en France.
Sauf que Peter est avocat et si la famille s'installe en France, il devra passer l'examen du barreau. Mais Peter n'aura pas le choix, sa spécialité, c'est le droit européen. Pour pouvoir continuer à exercer, il est obligé de rester européen.
95% de la décision est quand même professionnelle. Si tu es spécialiste en droit européen, il faut être avocat au barreau d'un État membre. Si tu n'es pas, tu n'as pas le droit de rendre du conseil confidentiel, tu n'as pas le droit d'audience dans le cours justice européenne. Je suis avocat, je suis adaptable, mais il faut que je cherche ailleurs.
La famille a donc beaucoup discuté et finalement, Peter ne partirait peut-être pas avec femme et enfant.
Selon les offres possibles, ça serait plutôt que je fais les allers-retours depuis le continent. Ma famille reste ici en Écosse et moi je travaille soit à Bruxelles, au Luxembourg ou ailleurs et je fais les allers-retours. Si moi je déménage pour le boulot, j'aimerais bien quand même essayer de le limiter. Si c'est lundi, jeudi, il y a quand même 3 jours ensemble. Mais oui. On ferait partie de tout ça, Skype Family.
Vivre sans son épouse et ses enfants n'est pas quelque chose que Peter avait envisagé. Il ne veut pas se poser en victime. C'est notre décision, dit-il, mais il faut penser au long terme. Et s'il quitte l'Écosse maintenant, alors qu'Elodie n'est que française, c'est elle qui aura du mal à revenir au Royaume-Uni.
Ça veut dire qu'elle sera avec aucun droit de dire que, attendez, vous devez me traiter quand même un peu privilégié parce que j'ai vécu plus que 5 ans. Non, c'est cassé. Mais c'est pas ça. En fait, il faut penser aux enfants en Écosse. Pourquoi j'ai dit en Écosse? Parce que en Écosse, on a les frais d'université gratuits. Il faut être résident en Écosse pour ça. Alors si on déménage en France et dans 3 ans, mon année va à l'université, elle devra payer pour les frais d'université.
La décision semble donc s'imposer d'elle-même pour la famille Sellard. Pour l'instant, en tout cas, ils font toutes les démarches administratives possibles pour assurer leur avenir européen. Et Elodie pense aussi à demander la nationalité britannique. À Londres, là où 60% des électeurs ont voté contre le Brexit, l'exil est une idée tentante pour beaucoup, une option sérieuse pour certains, comme Anthony et Brian. Contrairement à la famille Sellard, ils n'ont pas encore entamé les démarches de naturalisation. Ils ont commencé à régler le problème par un autre bout, explique Brian. Ils viennent d'acheter une maison au Portugal.
Mon compagnon est portugais de naissance et comme nous sommes dans un partenariat civil, je pourrais moi aussi obtenir le passeport. Nous allons garder la double nationalité pour avoir le meilleur des deux. Pour l'instant, je dois travailler au Royaume-Uni, mais je suis en train de me renseigner pour pouvoir baser mon entreprise au Portugal et vivre là-bas.
Brian est conseiller en gestion de projets et d'entreprises. Le couple vit déjà entre les deux pays depuis quelques mois, car quelque chose s'est cassé pour Brian.
Je trouve que le Royaume-Uni a changé depuis le vote sur le Brexit. Les gens se sont renfermés. Londres reste un cas unique grâce à son multiculturalisme, mais au-delà, dans les grandes comme les petites villes, les gens ont adopté une mentalité de plus en plus insulaire et sont de plus en plus xénophobes. J'ai l'impression que le Royaume-Uni ne sera plus le même après la sortie de l'UE. J'ai toujours cru au projet européen et je veux continuer à vivre et travailler dans l'Union européenne.
Brian ne fait pas partie de ceux qui ont voulu réduire en fumée leur passeport britannique en entendant les résultats du Brexit. Ce serait couper les ponts entre les pays et l'important pour tous ces Britanniques qui se sentent européens, c'est de pouvoir continuer à considérer le continent comme leur grande maison. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why.
Oh, don't ask why. Et le bar à whisky, ce n'est plus forcément au Royaume-Uni ou en Écosse, pourquoi pas. Et non, l'Alsace en produit un single malt qui bénéficie même d'une indication géographique protégée. Les premiers whisky alsaciens sont nés dans les années 2000. Aujourd'hui, cette eau de vie de Malte remporte plus de succès que le kirsch ou encore l'alcool de Mirabelle, digestif traditionnel qui existe pourtant depuis des décennies en Alsace. Une révolution. Corinne Fugler.
Ce whisky alsacien est élaboré à partir de brassins d'orge maltais issus des brasseries de la région. À Überach, au nord de Strasbourg, la distillerie Epp s'est lancée dans le whisky single malt en 2007, un été où les fruits manquaient. Elle en a produit 3 fûts cette année-là. Elle en produit aujourd'hui plus de 600. Yannick Epp.
Il y a 13-14 ans en arrière, quand on a commencé, on était des bleus dans le whisky. Hein. On a tout appris sur le tas, on s'est renseigné à droite à gauche. Et au début, les consommateurs d'eau de vie n'étaient pas forcément des consommateurs de whisky. Il fallait éduquer tout le monde, il fallait trouver de nouveaux clients.
Et les brasseries alsaciennes sont devenues les partenaires naturels des distilleries. L'orge sert de base à la fois à la bière et au whisky. L'IG, l'indication géographique, impose aux producteurs de whisky un cahier des charges très contraignant.
Ça doit être uniquement du single malt, interdiction totale de blend, interdiction totale de pure malt. Le single malt impose que ce soit fait dans une seule brasserie, un seul distillateur, un seul éleveur et un seul embouteilleur. C'est le cas chez nous et pour l'ensemble de mes confrères alsaciens.
En France, l'Alsace et la Bretagne bénéficient de l'IG pour du whisky. L'indication géographique garantit un produit authentiquement alsacien et de qualité. Et des 5 eaux de vie d'Alsace, c'est le whisky qui marche le mieux. Les producteurs alsaciens comptent donc sur le single malt pour conquérir de nouveaux palais.
Une génération de consommateurs ne connaissait pas du tout les eaux de vie de fruits et c'est le whisky qui permet de faire redécouvrir ces produits qu'on faisait depuis longtemps.
Chaque année, les distillateurs alsaciens produisent 53 000 litres d'alcool pur, dont 23 600 litres de whisky, dotés de cette indication géographique. C'est l'équivalent de 70 000 bouteilles.
Évidemment, hein, on boira ce whisky avec modération. Accent d'Europe, c'est déjà fini jusqu'à demain. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot, sobre. Retrouvez-nous sur RFI ou sur notre page Facebook. Et puis, restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants, le journal.